direct du Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Quelle joie de vous retrouver ici de nouveau. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et merci d'avoir pris goût manifestement à nos rencontres. Il fait partie du club de l'esprit public, mais il ne vient qu'à l'Odéon. Allez savoir pourquoi. Daniel Cohn-Bendit, merci d'être de nouveau avec nous ce dimanche.
Pas de quoi.
Par ailleurs, nos visiteurs du dimanche sont aujourd'hui des visiteuses. La philosophe Monique Cantos-Perber, l'ancienne eurodéputée Sylvie Goulard et la journaliste Christine Ockrent. Ensemble, nous allons porter un autre regard sur l'actualité de la semaine. Au sommaire de ce dimanche 10 février, après le vote de la loi anti-casseurs et la tentative de perquisition à Mediapart, question sur l'ordre et les libertés. Et puis réussirons-nous à parler d'Europe d'ici les élections de mai prochain, sur fond de rumeurs référendaires et de crise diplomatique franco-italienne. En marche s'était donc abstenu cette semaine, une première depuis le début du quinquennat. Il s'agissait d'une proposition de loi venue du groupe LR du Sénat visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, aussi appelée loi anti-casseurs. Dans le viseur des 50 abstentionnistes, un article qui prévoyait de donner au préfet un pouvoir jusque-là réservé aux autorités judiciaires, prononcer des interdictions individuelles de manifester avec création d'un fichier spécial s'inspirant des mesures prises dans les années 2000 contre les hooligans pour mettre fin à la violence dans les stades. Les députés LREM avaient introduit certains garde-fous, notamment la possibilité pour la personne interdite de manifester de contester en urgence cette décision devant un juge administratif. Mais cela n'avait pas suffi à éteindre le feu puissant de critiques venues de toutes parts. Très écouté notamment le réquisitoire de François Sureau dans le journal Le Monde cette semaine, l'avocat écrivain y déclarant « c'est à la société de liberté que l'on s'attaque en restreignant le droit de manifester ». Et lorsque le journaliste lui demandait si le niveau de violence depuis 13 semaines ne justifiait pas de recourir à ces mesures exceptionnelles, Sureau se montrait catégorique « le droit pénal ordinaire permet tout à fait déjà de réprimer les casseurs ». On avait également entendu cette semaine le député centriste Charles Amédée de Courson s'opposer à cette loi en invoquant le souvenir de ses aïeux résistants, dénonçant un texte digne du régime de Vichy. « Bienvenue au pays du libéralisme autoritaire », avait aussi écrit mercredi l'Humanité, dénonçant en vrac une mansuétude jugée coupable face aux violences policières, une ingérence dans la fabrique de l'information, rappelant les débats autour de la loi fake news et tentative de perquisition cette semaine chez Mediapart dans le cadre de l'affaire Benalla. Voilà qui donnait aussi l'occasion à la chaîne Russia Today, proche du Kremlin, d'oser cette semaine un débat sur la dérive autoritaire du gouvernement, ce qui ne manquait pas de sel. En attendant, sur le thème « Ordre et liberté » dans la France de Macron et des Gilets jaunes, le débat était ouvert et devait être tenu afin que la France reste à la France, c'est-à-dire une démocratie exigeante.
Mais où sommes-nous, mes chers collègues? Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Mais réveillez-vous, mes chers collègues.
Et vous continuez, monsieur le ministre de l'Intérieur, à nous dire que pour défendre le droit de manifester, il faudrait le restreindre. Nous n'acceptons pas cette logique. Nous n'acceptons pas son caractère pervers politiquement. Vous rompez tout l'édifice de la justice et ce qui était nos principes fondamentaux. Cette loi est une loi scélérate. À tous ceux qui ont fait entendre leur conscience dans la presse, au-delà de nos rangs, je leur dis, contre cette loi qui restreint le droit de manifester, manifestez-vous et votez contre, comme nous.
Vous aurez reconnu sans doute Alexis Corbière et Charles Amédée de Courson dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cette semaine. Daniel Cohn-Bendit, vous vous tenez la tête entre les mains en les écoutant. La question qui était posée cette semaine, c'est quel maintien de l'ordre dans cette France-là, qui est à la fois la France d'Emmanuel Macron, celle des Gilets jaunes et celle, c'est vrai, d'une violence inédite.
Alors d'abord, c'est une loi inutile, bête et méchante. Mais de là à comparer à Vichy, enfin moi, si on était sous Vichy, je serais pas là. Je serais disparu en camp. Donc on arrête des bêtises aussi de l'autre côté, parce que ça aussi, ça ne sert à rien. Alors d'un autre côté, le camarade Corbière, il me fait rire, parce que il a raison d'être contre cette loi, c'est pas ça. Mais le ton, et il soutient Maduro. 130 morts, je ne sais combien de milliers de blessés. Enfin, on croit rêver. Donc, c'est une loi, et ça, je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement a repris cette loi des Républicains. C'est toujours la même chose. Quand il y a des choses difficiles à gérer, eh ben, on n'y arrive pas. Donc, on fait une loi. On sait que ça ne sert à rien, mais comme ça, on fait semblant qu'on soit capable d'agir. Après les attentats, on a vu des choses identiques, etc. Le vrai débat, pour moi, par exemple, il y a la violence des manifestants, on pourra en parler après, mais sur la police, il n'y a qu'en France qu'il y a des flashballs et ces grenades. Dans les autres pays, il n'y a pas. Et ça qu'on m'explique pourquoi. Alors, est-ce que les Allemands n'aiment pas l'ordre ? Ça serait une bonne nouvelle quand même, hein, ça serait intéressant. Ou alors des autres pays. Donc, je crois qu'il y a à vrai discuter quelles sont les possibilités, les nécessités du maintien de l'ordre dans les situations que nous avons connues aujourd'hui.
Sylvie Goulard, c'est une loi de circonstance ou une loi qui répond à un désarroi ?
Non, moi j'avais envie de faire une petite remarque. D'abord, bonjour à vous tous qui êtes là et puis à ceux qui nous écoutent. Une remarque, ce qui m'a le plus frappée comme ancienne parlementaire européenne, c'est les étonnements sur le fait qu'il y ait débat au Parlement. Parce qu'un Parlement, c'est fait pour débattre. Et c'est fait pour adopter la loi. Donc la liberté de manifester n'est pas inscrite en tant que telle dans la Constitution. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. Et donc ensuite, il y a des députés de tendances différentes, ou même à l'intérieur d'un même groupe, qui expriment des sensibilités différentes. Et je crois qu'au lieu de s'en étonner, il faudrait s'en réjouir. Ce sont des sujets importants. Dany a eu raison d'insister sur le fait qu'on a atteint un degré d'outrance qui est probablement inapproprié. Mais je crois important que le Parlement débatte et que chaque député prenne des décisions en son âme et conscience. Parce que c'est l'inverse qui serait particulièrement grave. Deuxième remarque, sur effectivement la comparaison internationale. Je trouve ce qui a un peu manqué dans cette discussion, c'est de voir comment des démocraties arrivent à maintenir l'ordre, étant entendu qu'il ne faut pas oublier que si on veut défendre la liberté, il faut la défendre pour tout le monde et tout le temps. Il y a eu aussi des personnes qui ont été empêchées de se déplacer sur le territoire national, par une poignée d'individus qui bloquaient des routes. Ça aussi, ça mérite respect. Donc, il y a toujours un curseur entre la liberté et l'ordre. Et cette décision, il n'y a pas la vérité et l'erreur, il peut y avoir des sensibilités différentes. En tout cas, je dis aussi que la procédure législative n'est pas terminée.
C'est vrai, en effet, ça va maintenant repartir au Sénat. Et si le texte est modifié, le texte reviendra de nouveau à l'Assemblée nationale. Monique Kantosperber, vous aussi, comme Sylvie Goulard, vous le trouvez sain, au fond, ce débat sur quel maintien de l'ordre dans cette République-là, confrontée à ces événements-là ?
Je suis, comme vous savez, très favorable au pluralisme et je considère que la diversité d'opinions est une excellente chose qui, en général, permet de mieux de parvenir à une meilleure conclusion. Pour en revenir au sujet, la loi dite anticasseur, là, on reprend une dénomination des années 70 qui avait introduit l'idée de responsabilité pénale collective, ce qui est vraiment une aberration juridique. Cette loi, à mon sens, a tous les caractères d'une loi de circonstance, votée sans aucun recul et qui sert beaucoup plus à la communication politique qu'à résoudre ce problème fondamental que nos démocraties libérales devront affronter de plus en plus souvent, qui est la maîtrise de la violence, de l'anomie sociale qui se répand et dont les scènes totalement inacceptables, d'ailleurs auxquelles j'ai assisté moi-même hier, puisque ça s'est passé juste devant mes yeux. Bon, alors,
on va essayer d'augmenter le volume.
Des scènes tout à fait inadmissibles. Alors, j'insiste sur le fait que mon point de vue n'est pas du tout un point de vue angélique de défense des libertés à tout prix, méconnaissant toutes les nécessités de maintenir l'ordre. La liberté ne s'acquiert et ne se garantit qu'en tenant compte, évidemment, de la liberté des autres et de toutes les libertés des autres. Ça, c'est un problème auquel tous les libéraux sont affrontés. Mais il reste qu'une loi qui limite les libertés doit être d'abord justifiée en termes d'efficacité et ensuite, elle ne doit pas changer le sens que nous donnons à nos libertés dans une démocratie libérale.
Peut-être prendre par point, justement, sur cette notion d'efficacité.
Commençons par l'efficacité. Nous acceptons tous de passer par un portique d'aéroport avant d'embarquer dans un avion parce que l'efficacité est incontestable. Nous avons tous accepté la loi Hooligan, qui en effet est assortie de contrôles réalistes, c'est-à-dire que les personnes interdites de stade sont convoquées au commissariat pendant la durée du match, c'est environ 2 heures, Et par ailleurs, l'entrée dans les mages sont contrôlées. Il n'y a aucun moyen de rendre effective cette interdiction de manifester. Et ne pouvant pas être appliquée de manière stricte, elle sera nécessairement appliquée de manière abusive. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est la préservation de ce que signifie la liberté dans un régime comme le nôtre. Être libre, avec toutes les restrictions de liberté qui sont parfois nécessaires et justifiées, c'est la certitude de ne pas pouvoir être arrêté pour un motif ou être empêché ou être privé de liberté pour un motif qu'on ignore. C'est avoir la certitude que ça ne peut pas se produire avant qu'on ait commis l'acte qui serait éventuellement incriminé. C'est aussi la conviction que les motifs pour lesquels on pourrait être privé de liberté sont des motifs précis et caractérisés. Et enfin, c'est la certitude que une autorité indépendante, qu'elle soit judiciaire ou administrative, puisque dans certaines mesures la justice administrative est indépendante, qui le décide. Or, dans la loi actuelle, ce n'est pas une autorité indépendante puisque c'est le préfet, c'est-à-dire quand même le gouvernement, parce que le préfet, heureusement...
Et pour les hooligans non plus.
Pour les hooligans, tout à fait.
C'est oui. Il n'y a pas d'autorisation judiciaire.
Non, ni administrative.
Et là, vous avez dit que c'est là... bien. Moi, j'étais contre pour les hooligans aussi.
Mais c'est parce que tu aimes le foot. Donc,
alors, attendez. Alors,
j'ai terminé. Parce que
On laisse terminer Mme Kotosperber. La différence entre hooligans et les autres.
Jean-Daniel,
on laisse terminer Mme Kotosperber.
Je réprouve les agissements des casseurs et je pense que ce détournement, en quelque sorte, de la loi, qui est d'abord faite pour protéger les libertés et non pas pour y porter atteinte, ce détournement de la loi sera non efficace et sape à la base au traité de droit. D'autres mesures auraient été beaucoup plus pertinentes, qui étaient, par exemple, le fait de prononcer des interdictions manifestées après que des personnes se sont, par une autorité judiciaire, lorsque des personnes ont été condamnées pour des violences, une responsabilité pénale et évidemment civile des casseurs lorsqu'ils ont été identifiés comme l'auteur de ces dégradations. Et même des fouilles préventives aléatoires dans les pourtours des manifestations afin de retirer confisquer
cela
tout ce qui pourrait
servir
d'armes.
Déjà depuis un certain nombre de sabis. Sur la notion d'efficacité, Christine Ockrent, vous vouliez réagir.
Mais l'efficacité, espérons que le débat parlementaire qui ne fait que commencer, puisque cette proposition de loi doit aller au Sénat, y retourner, ai-je envie de dire, puisque comme Émilie l'a dit, c'était une idée de Monsieur Retailleau au départ, donc retourner au Sénat, revenir à l'Assemblée, espérons que l'efficacité du débat consiste à rogner cette loi qui est absurde et qui est dangereuse. Et ce qui me frappe, et c'est une comparaison aussi avec nos voisins européens, me semble-t-il, c'est cette manie française de légiférer. C'est effrayant. Nous sommes, je crois, les champions du monde des lois. Ça ne veut pas dire qu'elles sont appliquées, ni même que les décrets d'application voient jamais le jour. Ce serait d'ailleurs intéressant de vérifier l'amoncellement de textes pondus dans l'urgence, dans l'émotion. On se souvient de ce que disait le grand constitutionnaliste, hélas disparu, Guy Carcassonne, qui disait « Dès qu'il y a un fait divers aux 20h, on éprouve le besoin de faire une loi ». Et on comprend bien que dans le climat particulièrement tendu, anxiogène de ces derniers mois, il y a eu un espèce de précipité avec une dose d'émotion qui est forcément dangereuse. Mais espérons que le débat utile, comme le disait Sylvie, consiste précisément à ramener un peu de raison dans tout cela.
Alors, Daniel Cohn-Bendit, justement, parce que vous êtes un fouteux, comme l'a rappelé votre voisine de gauche, on se souvient qu'il y avait ce désarroi du monde footballistique qui avait amené ce projet de loi pour lutter contre la violence des hooligans. Pourquoi ce raisonnement-là ne fonctionne pas dès lors qu'on parle de manifestations et qu'on parle d'ordre républicain, même si c'est vrai, on a entendu aussi beaucoup ces dernières semaines les forces de l'ordre expliquer qu'elles avaient affaire à la fois un mouvement inédit, un niveau de violence inédit, il y a une sorte d'affolement, d'épuisement des forces de l'ordre qui ont revu à la hâte ce qu'on appelle la doctrine du maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela, de tout ce contexte-là ?
Non, mais moi, je ne sais pas. Je trouve exagéré de dire les libertés sont en cause en France, etc. Calmons-nous. Mais... simplement, moi, je connais quand même pas mal de manifestations, de manifestants. Écoutez, si quelqu'un croit qu'il a participé à des manifestations, eh bien, pendant une semaine, il ne dort pas chez lui. il met des lunettes de soleil, il met un béret basque, il sera à la manifestation. C'est pour ça qu'elle est inutile et ridicule. C'est qu'elle est inapplicable. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, pourquoi faire des lois dont on sait qu'elles sont inapplicables? À part ça, pour les hooligans, moi j'ai trouvé aussi qu'on ne peut pas interdire à soi-disant que le préfet simplement, mais ça c'est une autre chose. Les Anglais, ils ont réussi à régler le problème des hooligans dans beaucoup de ça, mais là ils ont une autre moyen, ils ont mis les prix dans les stades tellement hauts que les hooligans ne peuvent pas se payer, donc ils sont en deuxième ou troisième division.
D'ailleurs, voyez, sans nous parler seulement des Anglais, parlez-nous aussi des Allemands, parce que c'est quand même un pays que vous connaissez. On a beaucoup entendu et vu circuler cette semaine sur les réseaux sociaux une référence à des forces de l'ordre allemandes qui, elles, justement, sont beaucoup plus dans une culture du compromis. On dit, voilà, finalement, l'arme d'un policier allemand, c'est de venir avec un porte-voix pour pouvoir d'abord essayer.
C'est une
idée très française de ce qu'est la police allemande.
On cherche avec les Allemands. Les Allemands ont eu le même problème après le G7.
Le G20 à Hambourg,
où là aussi les forces de l'ordre, dans leur stratégie de désescalade et de non-désescalade, d'encadrer les manifestations, eux, ils ont encadré la manifestation, ils ont laissé tout un quartier aux mains des manifestants qui ont saccagé tout un quartier. Alors on leur reprochait, pourquoi vous n'étiez pas avec les manifestants, parce qu'on devait protéger le G20. Enfin, c'est pas tout propre. Mais c'est vrai qu'il n'existe pas en France une stratégie de désescalade pour les manifestations. C'est vrai qu'en Allemagne, après des manifestations très dures, on a essayé, surtout les manifestations contre les centrales nucléaires ou la construction de centrales nucléaires, on a essayé différentes stratégies de désescalade. Ce que je ne connais pas...
Expliquez-nous.
Les désescalades, c'est-à-dire qu'il y a des tas de policiers qui sont sans casque, avec un brassard, et qui discutent avec les manifestants. Et qui... Alors, évidemment, on dit, va discuter avec
les... Les manifestants allemands sont peut-être
ils sont aussi durs. Mais non, parce que, voilà, c'est ça qui est drôle, parce que quand il y a... Rappelez-vous quand même, quand on parle des Black Blocs, eh bien, ils viennent d'Allemagne. Donc, visiblement, ils ne sont pas plus doux.
Pas des bons manifestants allemands contre des méchants manifestants
allemands. Non, le problème, c'est comment on arrive à responsabiliser les manifestants pour la sécurité et lors de leur propre manifestation. C'est un vrai débat. Parce que c'est vrai qu'il y a un angélisme là du côté des manifestants. Je sais bien, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est la police qui a commencé. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la police ne commence pas. Ils bloquent l'entrée à l'Élysée. Si on veut rentrer là, si on commence à secouer les barrières, c'est pas la police qui a commencé. Alors ils disent, ils avaient qu'à pas se trouver là. Oui, et puis laisser l'Élysée ou laisser l'Assemblée. Non, je veux dire que donc il y a une hypocrisie du côté de certains manifestants qui correspond aux mesures ridicules de l'État. Donc ridicule, il faut avoir la raison.
J'ai toujours pas compris comment on faisait en Allemagne.
Mais en Allemagne, ils essayent, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il n'y a pas de situation où on est sûr. Rappelez-vous, Gênes en Italie, et toutes les catastrophes, etc.
On est sur un terrain très dangereux parce qu'on essaye de faire des comparaisons internationales niveau café du commerce. Il faudrait quand même regarder précisément ce qui s'est passé. Quand j'ai réfléchi ce matin, je me suis rappelé effectivement le G20 à Hambourg, le G8 à Gênes en 2001 où il y avait eu un mort, donc en Italie, les émeutes que Theresa May a réprimées dans les banlieues britanniques en 2011, qui ont été particulièrement violentes aussi. Donc je crois objectivement qu'on n'est pas des spécialistes de la question. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre l'ordre et la liberté, et que cet équilibre, il s'inscrit aussi dans des traditions, je dirais, nationales. En Allemagne, le ministère de l'Intérieur est local. Il n'y a pas un ministère de l'Intérieur fédéral. Enfin, il y en a un, mais le maintien de l'ordre relève des Länder. C'est pourquoi, quand vous êtes dans un petit land comme Hambourg, et que vous avez un événement de taille internationale comme le G20, vous êtes dans un scénario totalement différent du maintien de l'ordre dans les rues de Paris, pays centralisé. Donc voilà. Non, ce que je voulais dire quand même, c'est que, parce que ça miroitait un petit peu sur les décisions administratives. Donc, non seulement il va y avoir un examen du texte par les différentes assemblées parlementaires de la République. Ensuite, le texte est susceptible de recours devant le Conseil constitutionnel. Et les préfets, comme toutes les autorités administratives, sont contrôlés par la justice administrative, les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, le Conseil d'État, avec maintenant une procédure de référé-liberté dans lesquelles le juge administratif, qui est indépendant, peut être amené à se prononcer dans les 48 heures. Donc je crois qu'il faut quand même donner aux citoyens une vision complète de ce qu'est l'état de droit. et dire que l'adoption d'une loi aboutit à une violation, je crois que c'est quand même aussi sauter une étape.
Même si on entend aussi, Christine Ockrent, l'intérêt d'aller regarder ailleurs ce qui se passe. On a pu beaucoup lire et entendre ces derniers jours que des pays d'Europe du Nord, comme le Danemark par exemple, ont beaucoup plus réfléchi que nous, Français, à améliorer la relation entre forces de l'ordre et citoyens.
Oui, mais je crois qu'il faut quand même se féliciter. On a peut-être pas de théorie de désescalade, pour reprendre l'expression de Dany, mais enfin, constatons quand même que, fort heureusement, il n'y a pas eu de mort. Et donc, on peut, au contraire, me semble-t-il, féliciter les forces de l'ordre d'arriver à maintenir une maîtrise d'eux-mêmes, d'abord, une maîtrise collective, et donc, certes, peut-être n'y a-t-il pas de théorie, peut-être y en a-t-il une. Il est bien évident que les responsables de la sécurité en France depuis des années, et notamment depuis les années 70, réfléchissent, travaillent à des scénarios. Et les entraînements sont conçus pour ce faire.
L'usage des LBD, ça, quand même, c'est très concret.
Ça, c'est autre chose. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est le choix des moyens mis à disposition. Mais je voudrais quand même souligner que jusqu'à présent, et fort heureusement,
oui, mais ça, c'est,
soyons-en
c'est
heureux.
C'est le problème et la contradiction.
Les forces de l'ordre ont gardé la maîtrise.
Christine,
d'eux-mêmes.
Le problème des forces de l'ordre, c'est connu. Maurice Grimaud disait en 68, il était préfet de police, mon problème, c'est de maîtriser mes hommes, de les calmer. Parce qu'il sait que quand il y a des manifestations et quand les policiers sont 8, 9 heures, 10 heures, debout, ils en ont marre et il y a des hommes qui viennent tabasser, eux ils ont envie de les tabasser pour dire ça suffit. Donc il faut les calmer. L'utilisation des flashballs et de ces grenades, c'est pour éviter le corps à corps, parce que le corps à corps donne les ratonnades. Il faut pas être angélique, c'est pas simple cette histoire. Si vous laissez les policiers, parce que si ils commencent à taper, il faut que les gens, pour qu'ils continuent pas à manifester, restent à terre, donc il faut les frapper à terre, entre guillemets, il faut pas. Donc, c'est ça qu'il y a derrière, toute une stratégie du maintien de l'ordre, comment éviter le corps à corps et ces armes, je dis encore, ces grenades, qui d'ailleurs, toutes derrière, sont maintenant interdites, mais on épuise les stocks. Ce qui est quand même quelque chose d'inadmissible, hein. Non, mais c'est la vérité. Et deuxièmement, les flashballs, moi je crois que quand ce qu'on a vu, c'est une mauvaise, bonne solution. Donc il faut les retirer et trouver autre chose.
Sur les moyens, je suis d'accord.
Monique Cottosperber.
Bon, et toutes ces suggestions extrêmement intéressantes montrent que nous avons besoin d'un véritable débat public approfondi sur ce que signifie le maintien de l'ordre dans l'espace urbain aujourd'hui. Parce que la violence sociale et l'anomie, comme je disais tout à l'heure, est de plus en plus répandue. Donc avoir des moyens appropriés et justifiés pour lutter contre cela, une véritable réflexion sur les armes qui sont, les moyens concrets qui sont utilisés, éventuellement des comparaisons internationales, même si elles ne sont pas à reprendre telles quelles parce que les contextes sont différents. Et puis aussi une véritable formation des personnels de police, parce qu'une enquête récente, enfin dont les résultats ont été publiés il y a deux jours, montrait que la plupart des flashballs avaient été utilisés non par les gendarmes, la gendarmerie mobile, pas plus que par les CRS, mais par des forces de police d'une autre origine qui n'ont pas le même type de formation. Donc là aussi, c'est une réflexion qui est à mener. Maintenant, je voudrais quand même replacer cette loi qui, étrangement, est proposée au Parlement, suscite une véritable fracture, enfin, d'après ce que nous dit la presse et ce que nous disent les analyses au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée, dont nous espérons tous qu'elle soit pour finir retoquée au Sénat, j'en doute, éventuellement lors d'une seconde lecture et pour finir par le Conseil constitutionnel. Donc on peut se demander pourquoi tout ça, si ce n'est un gain d'affichage.
Ça, c'est le problème de la démocratie.
Et un gain de
depuis
conquête.
Depuis quand les parlements sont toujours intelligents,
il faut arrêter. Ça ne doit pas durer trop longtemps.
Non, mais je veux des débats sur des véritables questions. La question de l'équilibre entre l'ordre et la liberté, c'est une véritable question. La question de savoir si on va interdire de manifestation pendant un mois des personnes, alors que tout le monde sait que c'est inapplicable, inefficace, pardonnez-moi, je trouve que c'est une perte de vivacité démocratique. Cela dit, cette loi, elle s'inscrit quand même, pardonnez-moi, mais là, comme vous savez, je suis très attachée à la défense des libertés.
Et vous publiez dans deux semaines, je crois, un ouvrage qui va s'appeler « La fin des libertés ».
Mais il y a,
avec un point d'interrogation ou pas, Manu ?
Alors, malheureusement, je crains que ce ne soit une certitude, déjà.
Non, mais il ne faut pas exagérer.
Non, là, attendez, laissez-moi.
Franchement. On va discuter des dictatures un peu.
Non, on reparlera.
On est à l'Odéon ici, on en reparlera dans quelques années.
Mais nous avons déjà eu la loi renseignement en 2015, enfin, qui a suscité beaucoup d'opposition. La transcription dans le droit commun de l'état d'urgence, qui aussi a suscité, surtout chez les juristes et les défenseurs professionnels des libertés, de nombreuses oppositions. Voyez-vous, je crains que, mesure après mesure, on en finisse par créer un état quasi d'irréversible. Alors, une première crainte est motivée par le fait que l'ordre constitutionnel, l'ordre juridique, n'appartient pas à ceux qui le transforment. Il peut tomber dans les mains de formes de gouvernement beaucoup plus autoritaires qui s'en serviront pour de tout autre fin que celle auquel nous avions pensé. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier.
Et il est vrai que cette semaine, Monique Kottos-Perber, on mettait beaucoup de choses dans le même panier de ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, les libertés publiques. Je sais que vous avez beaucoup apprécié la lecture d'un article dans L'Humanité, justement, qui parlait de ce débat parlementaire, qui partait de ce débat parlementaire autour de l'article 2 de cette loi anticasseur, pour aller ensuite, pour rappeler l'état d'urgence, pour rappeler la loi contre les fake news, et qui citait aussi cette perquisition avortée chez Mediapart cette semaine pour chanter la musique d'un problème qu'aurait Emmanuel Macron avec les libertés
publiques. C'est tout à fait différent.
Depuis 1970, reprenez Le Monde, L'Humanité, Libération, tout ça, les libertés sont de plus en plus en danger. Donc comme ça fait plus de 50 ans, il ne doit plus y en avoir en France. Vraiment,
la preuve, on est là.
La preuve, non, ça doit être terrible la France. Donc moi je crois, encore une fois, je ne défends pas cette loi. Mais je trouve que comme ça, monter que là, c'est la fin des libertés en France, eh bien je dis, allons voir où il y a vraiment d'autres problèmes de liberté, et après on dira, ouf, il faut lutter contre... Moi, ce qui m'agace, c'est pas qu'ils veulent supprimer, c'est la bêtise de certaines lois. Donc, appelons un chat un chat. Cette bêtise, elle réduit pas la liberté, elle fait qu'elle est inapplicable. Donc, ceux qui voudront manifester, manifesteront, et on met comme ça un petit foulard jaune, là, qui effraie le peuple.
Mais il manque aussi une défense de la liberté des gens qui veulent aussi pouvoir s'exprimer, aller et venir, comme femme. Je crois que je suis beaucoup plus libre aujourd'hui qu'il y a une cinquantaine d'années. Comme femme, je suis beaucoup plus libre en France et en Europe en général que dans bien des parties du monde. Nous sommes dans des pays dans lesquels on a aboli la peine de mort. Nous sommes dans des pays dans lesquels il y a un certain nombre de garanties. C'est pour ça que je les ai répétées de type constitutionnel. Je crois qu'il faut quand même pas non plus faire les enfants gâtés de la planète.
Bon, là, on discute de la loi.
Monique Kottos-Perber.
Juste un point, pour reprendre une remarque tout à fait justifiée, à mes yeux en tout cas, de Daniel Cohn-Bendit, il est vrai que la loi anti-hooligan, bon, elle a des moyens d'être contrôlée. Elle n'est pas complètement incontrôlable et inapplicable comme l'éventuelle future loi anti-casseurs. Mais il reste que quand même ce qui permet aux préfets de prononcer leur interdiction, ce sont les renseignements territoriaux, c'est le travail des renseignements territoriaux. Or, je vous signale que les erreurs sont quand même assez nombreuses. Il y a des confusions de noms, il y a des données qui sont maltraitées. Donc, en effet, le projet de loi prévoit qu'il y a un recours auprès du tribunal administratif. Mais il faut quand même bien savoir ce dont il est question et à partir de quoi ces interdictions seront prononcées, c'est-à-dire des renseignements qui sont parfois assez douteux.
Pour conclure cette première partie sur l'ordre et les libertés, Daniel Cohn-Bendit, vous avez qualifié cette loi de bêtise, la perquisition chez Mediapart, même si elle n'est pas tout à fait le même sujet, mais qu'elle a été incorporée cette semaine dans un débat sur les libertés France d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez que cette perquisition décidée par le parquet, c'est aussi une bêtise?
Ben, j'en sais rien, moi, s'il y a une décision juridique. Alors maintenant, oui, le parquet peut aussi... Enfin, évidemment que des juges et le parquet peuvent commettre des bêtises. Mais alors maintenant, vous dire s'ils avaient le droit ou pas, j'en sais rien.
Ils avaient tout à fait le droit, mais Mediapart avait le droit de refuser la perquisition, parce que Mediapart était fait.
Donc tout va bien.
Hein, parce que en Hongrie ou en Russie, moi je ne crois pas que Izvestia machin, ils auraient pu dire non, vous n'avez pas le droit de rentrer. Non, vous venez. Ah bon, ben on s'en va.
La Hongrie,
c'est pas comme ça que ça se passe. Alors d'accord.
Eh bien voilà, voilà qui tombe à merveille, puisque quelle Europe voulons-nous ? C'est précisément ce dont nous allons parler maintenant dans notre deuxième partie, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui en direct et en public du Théâtre de l'Europe, Théâtre de l'Odéon. D'ici mai prochain, réussirons-nous à parler d'Europe ?
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Paris rappelle son ambassadeur en Italie. Lorsqu'on avait entendu cette information à la radio cette semaine, on avait eu le sentiment de voyager dans le temps. Tant l'expression et sa connotation renvoyaient à ces documentaires d'histoire qui nous racontaient les déclenchements des guerres autrefois. Pourtant, je dis, l'expression du passé se conjuguait bien au présent. Christian Masset, ambassadeur de France en Italie, était rappelé à Paris par le gouvernement pour des consultations, précisait le communiqué. La France faisant l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement et de déclarations outrancières. Le texte du gouvernement français fustigeait, je cite, les dernières ingérences qui constituaient une provocation supplémentaire et inacceptable. Référence à la visite en France mardi du vice-premier ministre italien Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, venu rencontrer des gilets jaunes candidats aux élections européennes. Di Maio tweetant dans la foulée « Le vent du changement a franchi les Alpes ». La dernière fois qu'un ambassadeur de France en Italie avait été rappelé dans son pays, c'était en 1940, lorsque Mussolini avait déclaré la guerre à la France. Tensions intra-européennes donc maximales, au moment où les partis se mettaient en ordre de bataille en vue des élections de mai prochain, et l'on se demandait comment ceux qui voulaient vraiment parler d'Europe, projet contre projet, vision contre vision, pour aborder des sujets aussi cruciaux que la France, l'Europe dans la mondialisation, la puissance qui glissait de l'Occident vers l'Orient, la souveraineté et les identités, l'urgence climatique, les inégalités, les flux migratoires, comment donc ces débats-là essentiels allaient pouvoir se tenir ? Sans oublier la rumeur d'un référendum post-grand débat susceptible d'avoir lieu également le 26 mai prochain. En attendant, l'actualité des européennes, c'était quand le français Christophe Chalençon, porte-parole du RIC, ce mouvement des Gilets jaunes qui voulait présenter une liste aux européennes, rencontrait l'italien Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, pour parler conquête du pouvoir.
Monsieur Di Maio s'est déplacé à Montargis avec une délégation, notamment trois députés européens. Nous voulions, nous, connaître le positionnement du mouvement 5 étoiles par rapport à la Ligue. C'est le problème qu'ont beaucoup de Français qui pensent que le gouvernement italien est d'extrême droite. Donc nous devions éclaircir ce sujet-là avec le mouvement 5 étoiles. Donc Monsieur Di Maio et ses collègues nous ont apporté tous les éléments nécessaires pour rassurer dans ce sens-là. Nous avons demandé un petit peu à savoir comment eux s'étaient débrouillés, comment ce mouvement populaire et non populiste avait pris le pouvoir en partie en Italie. Monsieur Di Maio nous a apporté encore une fois, mais de façon ouverte et verbale, son total soutien dans le mouvement.
Voilà, Christophe Chalençon, porte-parole du RIC, mais non pas tête de liste. Et comme vous l'indiquez, en effet, Daniel Cohn-Bendit, la tête de cette liste-là, s'est opposée, s'est dit hostile à cette rencontre qui avait eu lieu cette semaine à Paris avec Luigi Di Maio. Et vous vous êtes de nouveau pris la tête dans les mains en écoutant ce son de la semaine, Daniel Cohn-Bendit. Oui, c'est l'homme aide à réfléchir.
Ça m'aide à réfléchir, c'est vrai, Christine. Non, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est donc ces nouveaux venus à la politique. Ils sont vachement rapides dans la langue de bois traditionnelle de la politique, vraiment.
C'est la première langue étrangère que les gens maîtrisent.
C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est absolument fascinant. Non, moi, je trouve que 5 étoiles a tout à fait la liberté. S'ils veulent faire une liste transnationale, 5 étoiles jaunes. Je l'ai pas fait exprès. Je veux dire, ils ont le droit, hein, donc je vois pas pourquoi on s'énerve là-dessus. Monsieur Di Maio est très mal en Italie. Il perd tous les arbitrages contre Salvini. Donc il essaye de se montrer un peu.
Il faut pas s'énerver là-dessus, c'est-à-dire fallait pas rappeler l'ambassadeur.
Mais bien sûr que non. Si à chaque fois qu'il y a encore une fois une bêtise dans un pays, il faut rappeler un ambassadeur, la France n'aurait plus beaucoup d'ambassadeurs dans le monde. Ça, je vous le dis.
Christine O'Krent.
Non, c'est vrai que cette décision a un côté bas de soi. Tout à fait anachronique. Mais ce que je trouve très intéressant dans cette crise franco-italienne, c'est qu'au fond, elle prouve qu'il y a un espace politique intra-européen. Et donc, d'une certaine manière, c'est bon pour l'Europe. Parce que cela veut dire qu'il y a véritablement, non pas tellement une ingérence, mais des courants qui se ressemblent, et on pourrait d'ailleurs franchir la Manche, parce que dans les éléments, dans les ingrédients d'origine du Brexit, on trouve là aussi des éléments communs, me semble-t-il. Et donc le fait qu'il y ait cet espace transnational, certains d'ailleurs voulaient, à commencer par Emmanuel Macron, qu'un certain nombre de sièges des députés anglais qui, en principe, mais Dieu sait où va le Brexit, c'est-à-dire nulle part, ou plutôt dans le mur, mais ces sièges, un certain nombre de sièges auraient été alloués à des députés transnationaux. Donc, pour en revenir, certes, c'est complètement choquant que Di Maio, vice-premier ministre, vienne rencontrer ce monsieur en France sans prévenir personne, mais cela répond aussi, comme vous le disiez, Émilie, au problème de politique intérieure italien. Mais j'aimerais insister sur cette dimension transnationale d'un espace politique d'un type nouveau. C'est pas de l'international, c'est pas une crise entre deux capitales qui rompent leurs relations diplomatiques, ce qui est tout à fait classique. C'est véritablement, me semble-t-il, un phénomène intéressant et relativement positif.
Donc, au fond, Sylvie Goulard, on serait déjà, en fait, réellement dans un débat lié aux élections européennes, dans cette crise franco-italienne, parce que finalement, lorsque l'on rappelle la liste de toutes les tensions qui ont existé ces dernières semaines entre nos deux pays, on voit bien que ces tensions, elles touchent au contraire au vrai sujet, à savoir ces polémiques ou ces échanges à fleur et mouchetée qu'il y a eu sur les migrants, sur ces anciens activistes italiens, sur la Libye. On ne va pas citer le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin parce que ça, c'est encore autre chose. Il y a eu aussi ces propos d'Emmanuel Macron sur la lèpre qui monte et le nationalisme qui renaît. Donc en réalité, avec cette crise franco-italienne, on touche à l'essentiel de ce qu'est aujourd'hui le débat européen.
Mais pas seulement avec cette crise franco-italienne. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Christine Ockrent sur le fait que nos débats s'interpénètrent. Vous avez déjà remarqué sans doute combien sont suivies les élections législatives en Allemagne, en France, combien on a suivi la présidentielle française dans les autres pays, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut juste faire une note de bas de page sur le fait que ce n'est pas tant la visite d'une personnalité politique que la teneur de propos à l'appui de la part d'un vice-premier ministre, à l'appui de personnes qui ont appelé à la déstabilisation de l'État en France. Je crois qu'il faut faire une différence, là. Il est bon que les idées circulent par-delà les frontières et que les personnes qui ont la liberté de circulation puissent le faire. Je pense que ce qui peut justifier un petit rappel à l'ordre, c'est quand même qu'il n'est pas souhaitable que les gouvernements de l'Union européenne, qui ont des engagements les uns vis-à-vis des autres en fonction des traités, on a quand même une monnaie commune, on a des politiques communes, qu'on puisse souhaiter la déstabilisation de l'autre État. Une atteinte à la sûreté de l'État, une atteinte au président de la République ou des appels à la haine.
Mais donc Sylvie Goulard, si vous aviez été ministre des Affaires étrangères, vous auriez donné la consigne de rappeler l'ambassadeur ?
Moi, je ne me prends jamais pour un ministre que je ne suis pas. Et je laisse les gens prendre leurs responsabilités comme ils l'entendent. Ce que je dis simplement, c'est quelque chose de très profond derrière. C'est le sentiment d'appartenance européen. La vraie question, un peu plus amusante, voire impertinente, c'est pourquoi est-ce qu'on a encore des ambassades à l'intérieur de l'Union européenne avec la même fonction que dans les pays extérieurs à l'Union européenne. Non, mais ça, c'est une question profonde. On pourrait imaginer, bien sûr, on a besoin de flux d'informations sur l'autre pays, mais appliquer la Convention de Vienne sur les représentations diplomatiques, qu'on soit à Rome ou au Zimbabwe, ça me paraît un tout petit peu différent. Et il ne faut pas s'étonner que les Européens aient parfois du mal à se sentir appartenir à un ensemble quand on n'a pas fait grand-chose pour que l'intérieur de cet ensemble soit organisé différemment de des relations avec l'extérieur. Pendant longtemps, on a déplacé les frontières, on a fait des élargissements, et en plus, on a maintenu des relations. Et vous savez, c'est valable aussi, moi, ça me frappe dans les statistiques, par exemple. On oscille en permanence, à l'intérieur de la zone euro, entre une vision consolidée, on agrège les performances, et puis on dit, même dans une union bancaire qui est censée avoir fait disparaître les frontières, les banques françaises, les banques italiennes, la plus grande banque italienne, UniCredit, est aussi une banque qui se trouve en Allemagne. BNP Paribas a une filiale en Italie ou en Belgique. Et donc, on se rend bien compte, et c'est ça qui est fascinant dans le débat en ce moment, c'est que des vieilles structures sont en train de craquer. On n'a peut-être pas encore fait naître celles qui vont accompagner la souveraineté européenne.
Monique Kantosperber, réussirons-nous à parler d'Europe ? C'est le thème de ce deuxième débat, alors même que se murmure aussi la possibilité d'un référendum post-grand débat qui pourrait avoir lieu le 26 mai, c'est-à-dire en même temps en France que les élections européennes. C'est une bonne ou une mauvaise idée pour la vitalité de ce débat démocratique ?
Dans la mesure où on ignore encore totalement quelles questions seraient posées, dans quel contexte, mais
sur le principe,
il est difficile
même,
de vous répondre.
Sur le principe même d'un référendum,
même, je ne suis pas très favorable au référendum quand ils n'ont pas été préparés, en tout cas par un véritable débat public, simplement, pas par l'expression de doléances ou par des manifestations et des pressions exercées par la violence, mais par un véritable échange d'arguments. Mais pour en revenir à la question européenne, il est vrai que nous sommes dans un moment tout à fait charnière pour l'Europe, avec la volonté d'une réalité commune, une politique commune, et encore des politiques nationales qui ont parfois du mal à s'accorder. Les enjeux européens, aujourd'hui, sont colossaux en matière économique. Le fait que la politique économique, et en particulier commerciale américaine, et il y a quelques mois, par exemple, se soit définie très clairement par rapport à l'Europe. Le fait qu'on pense à la révision des règles de la concurrence, le dernier arrêt prononcé par la commissaire à la concurrence sur l'affaire Alstom-Siemens, c'était tout à fait caractéristique. Les politiques de migration sont un peu moins présentes, mais il reste que la question de l'Iran et la manière dont l'Europe a du mal à afficher une unité politique et commerciale à l'égard de l'Iran face aux pressions américaines. L'attaque sur les GAFA, enfin bref, tout ça, ce sont des questions qui se posent aujourd'hui avec une acuité particulière et où l'Europe doit absolument reprendre la main. L'espace est ouvert, il y a de réelles volontés, mais les difficultés sont également là. Donc l'enjeu de ces élections, ce devrait être ça. Or, il est vrai qu'en France, du moins, c'est pas le cas dans tous les pays européens, mais en France, on n'a pas vraiment, pour l'instant, me semble-t-il, d'après ce que je perçois, un espace affranchi du parasitage d'autres questions qui soient plus proprement de politique interne, qui permettent de poser ces questions. Alors, il y a quelques mois, il est vrai que je redoutais d'une certaine manière qu'on aille vers une sorte de clivage, avec d'un côté la possibilité éventuellement d'une liste extrêmement large et inclusive qui aurait rassemblé tous les progressistes et pro-européens, et de l'autre côté, une liste qui aurait rassemblé tous ceux qui, pour l'occasion, auraient été qualifiés de non-européens ou de populistes, puisque c'est le mot valise qui sert à regrouper tout le monde. Alors, c'était d'une certaine façon un peu une stratégie qui avait été annoncée, que j'ai lu plusieurs textes qui prévoyaient ça, avec évidemment à la clé une prise de pouvoir au Parlement européen, parce que le rapport de force va véritablement changer à la suite de ces élections. Peut changer ou ne pas changer. Maintenant, ça a l'air d'être un peu moins sûr. Mais il reste que, si vous voulez, je suis quand même, d'une certaine manière, j'attends que les véritables enjeux européens défassent cette espèce d'affrontement des pros et des anti. Parce que parmi les pro-européens, il y a des sensibilités différentes, il y a des compréhensions différentes de ce qu'est l'Europe. Et je voudrais que cela, sur des questions aussi précises que celles que j'ai rappelées, que ces différences d'options entre le PP, les libéraux, les sociaux-démocrates, puissent s'articuler.
Ça s'appelle le pluralisme du débat européen.
Les listes transnationales, c'est formidable, à condition qu'elles ne se réduisent pas à pour l'Europe, contre l'Europe. Parce que ce serait une caricature du débat.
Est-ce qu'on saura échapper, Christine Ockrent et Daniel Cohn-Bendit, à cette bipolarité-là?
Mais la bipolarité, enfin Sylvie Goulard et Danny Cohn-Bendit le savent infiniment mieux que moi, cette bipolarité n'existe pas au Parlement européen, qui véritablement a une géographie politique tout à fait différente et dont, hélas, l'opinion française est totalement ignorante. De la même manière qu'on a beaucoup de mal, et c'est bien dommage, à identifier nos représentants au Parlement européen, surtout quand on change de système, à peu près à chaque élection, puisque maintenant il y aura une seule circonscription, en quelque sorte, alors qu'on a utilisé 36 systèmes différents auparavant.
Par région, etc.
Ce qui est très intéressant, me semble-t-il, dans les élections prochaines, c'est la manière dont les fractures à l'intérieur du groupe conservateur PPE vont refléter ou non la fracture, pour aller vite, entre les pays autoritaires sous la bannière de Monsieur Orban, le Hongrois. Il faut quand même rappeler que le candidat allemand à la présidence de la Commission a fait la campagne électorale de Monsieur Orban en Hongrie. Et j'étais très surprise d'entendre Arnaud Danjean, pour qui j'ai beaucoup de considération et qui est bizarrement dans cet attelage de la liste LR aux européennes, entendre sur France Inter l'autre matin expliquer que ben non, il n'y avait aucune fracture au sein de ce groupe PPE et que quand on fréquente Monsieur Orban et quand on discute avec Monsieur Orban, tout va bien. Donc il sera quand même très intéressant de voir, c'est ce qu'il a dit à l'antenne, il sera quand même très intéressant de voir ce que ce groupe conservateur qui veut conserver la majorité au sein du Parlement, et c'est très important pour la désignation ensuite du président de la Commission, sera très intéressant de voir comment les tensions réelles au sein des 27 vont se refléter dans ces élections, bien au-delà du cas français.
Il y a les divisions, Daniel Cohn-Bendit, au sein du PPE, en effet, le parti de la droite européenne, et puis il y a une gauche européenne qui voudrait aussi pouvoir sortir de cette situation de bipolarité dans laquelle on essaye d'enfermer le débat de ces européennes.
Alors, il y a quand même deux choses. En France, ceux qui ont lancé, alors c'est pas ceux progressistes ou pas, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui ont dit on va faire des européennes un référendum contre Macron. Ce qui est un non-sens complet. Les européennes, je suis d'accord, c'est un débat sur quelle Europe on veut. Alors on peut...
En principe,
voilà. Et je rappelle à tous ceux qui veulent faire un référendum de ces européennes contre quelqu'un, l'élection de 2009, où ça n'a pas réussi ni à François Bayrou, ni au Parti Socialiste. Donc c'est une mauvaise idée, mais... Comme je les aime pas, ils ont le droit d'avoir de mauvaises idées. Comme ça, ils feront pas un bon résultat. Donc tout va bien pour moi. Je veux dire par là que aujourd'hui, les grands perdants des prochaines élections européennes, ça va être la gauche européenne. Dans tous les pays, en Allemagne, en France, le Parti socialiste, s'il y va seul, est-ce qu'il aura 5%? Moi, je mettrai pas beaucoup d'argent là-dessus. Hamon, qui explique le monde à tout le monde, s'il fait 3%, il est le roi du pétrole, il fera pas plus. Donc, cette gauche-là, les seuls
qui aujourd'hui... Vous croyez pas aux tentatives d'unification de jeune Raphaël Glucksmann?
Mais enfin, il faut arrêter de rêver. Nous, on avait essayé pour une primaire pour toute la gauche. Vous savez, ça, c'est une posture. Ce qu'a proposé Hamon, avec ses votes et tout ça, c'est-à-dire que cette liste unitaire, elle sera capable de faire campagne le lendemain de l'élection européenne. Donc, ça va être vraiment fascinant, cette histoire. Non, les seuls qui tirent pour l'instant leur épingle du jeu en tant que force européenne qui n'est pas identique à Emmanuel Macron sont les écologistes. C'est Yannick Jadot, on aime ou on n'aime pas, mais eux, ils font un bon score, ils ont une ligne, ils parlent de l'Europe, ils ont une position des écologistes européens, mais il faut dire que les écologistes, ils sont forts, très forts en Allemagne, ils sont très forts en Belgique, mais ça fait que 2-3 élus. Au Luxembourg, ils sont hyper forts, ça fait un élu, parce qu'ils en ont 6, etc. Et ils n'existent pas en Italie, ils n'existent pas en Espagne, ils n'existent pas au Portugal, ils n'existent pas en Roumanie, ils n'existent pas, etc. Donc, il y a aujourd'hui, il va y avoir une force centre, écolo ou pas, où il y aura En Marche, etc. Et là, moi je crois que au-delà des groupes, il y a quand même un argument à avoir pour ces élections européennes. Le président de la Commission et le président du Parlement ne peuvent pas venir d'un groupe qui accepte Orban en son sein. Ça doit être une ligne politique très simple et ça se fera après les élections. Parce qu'il y a quand même, entre les pro-européens, progressistes, écolos, gentils ou méchants, ça m'est égal, et ceux qui veulent une démocratie illibérale, comme le pouvoir en Pologne, comme la Hongrie, eh bien, on n'a pas le droit de canner là-dessus et de dire, et si Monsieur Danjean, que j'aime beaucoup, dit autant de bêtises, il est temps qu'il quitte le Wauquiez, sans ça il deviendra de plus en plus bête.
Si ce débat fondamental des européennes, c'est celui que vient de résumer Daniel Cohn-Bendit, pourquoi alors poser la possibilité d'un référendum qui se ferait sur d'autres enjeux, Sylvie Goulard? Alain Juppé estime que ce référendum-là, il risquerait d'occulter l'enjeu européen.
Écoutez, Émilie, on est là pour parler d'Europe.
Donc, c'est un peu lié.
Non, les rumeurs, on les laisse de côté. D'abord, une question que beaucoup de gens se posent et à laquelle ils n'ont pas la réponse. Est-ce que ça sert à quelque chose de voter aux européennes? Donc, juste peut-être un rappel factuel des prérogatives du Parlement européen. En gros, c'est des prérogatives très poussées en matière législative. Quand des gens vous disent que c'est la Commission européenne qui fait les lois, c'est faux. La Commission européenne fait une proposition et ensuite vous avez deux chambres. C'est le Parlement européen que vous élisez et c'est le Conseil des ministres dans lequel il y a les ministres qui ont été élus dans les différents pays. Et c'est par accord entre les deux chambres que se fait la loi européenne. en matière d'environnement, de protection de la santé, d'encadrement de la finance, de politique migratoire, etc. Donc ça compte pour la vie des citoyens. Donc je dirais, donc première chose, le législatif. Deuxièmement, le contrôle de la Commission européenne. On dit tout le temps que les institutions européennes sont des technocrates. En 1999, le Parlement européen a contraint la Commission européenne à la démission. Chaque commissaire, avant de devenir commissaire, passe une audition de plusieurs heures, qui n'est pas une partie de plaisir, devant le Parlement européen. Ça n'existe pas pour les ministres nationaux. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de démocratie. Tout n'est pas parfait. Par exemple, en matière budgétaire, le Parlement européen n'a pas tout à fait les pouvoirs d'un Parlement national classique. Mais en tout cas, ça compte pour votre vie. Ça compte pour le contrôle des autorités européennes. Ça compte pour la validation des accords commerciaux. En février 2010, nous avons voté avec Dany, je ne sais plus comment tu as voté, mais j'imagine, contre le transfert de vos données personnelles aux États-Unis, même pour des bonnes raisons de protection contre le terrorisme, parce que c'était vos données personnelles dans le réseau SWIFT, etc. Donc, première chose, oui, c'est important. C'est la seule tentative de créer une démocratie supranationale au monde. Rien que pour ça, ça mérite au moins le respect. Allons voter pour qui on veut, mais allons voter. Deuxièmement, quand même, une différence. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de tension dans le débat avec les nationalistes ou pas ? Il y a des personnes qui sont dans le pluralisme constructif. On l'a vécu quand on était rapporteur de texte. Quelqu'un peut être vert, libéral, socialiste, conservateur, mais il veut aboutir. Et vous avez ceux qui veulent détruire. Eh bien, demandez-vous quand même s'il n'y a pas une différence entre des gens qui veulent détruire, qui vont d'ailleurs au Parlement européen en se mettant en marge du travail et du jeu de compromis, et ceux qui veulent construire.
Ce sera ma dernière question pour vous quatre en guise de conclusion de ce débat. Soyons concrets. Le grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des Gilets jaunes, il va se conclure à la mi-mars. Il faudra ensuite le temps de faire les remontées de terrain et d'en tirer pour l'exécutif les leçons en vue d'organiser ou non ce référendum. Ce contexte français-là, ça laisse quelle place pour ce débat européen, Monique Kantos-Perber ?
À mon avis, il faut écarter cette question du référendum. Le débat européen
non, mais
est trop
important. La réalité
important.
De ce que vit la France en
L'enjeu,
ce moment.
L'enjeu, comme l'a rappelé Sylvie Goulard, est considérable. Il ne faut absolument pas se retirer de ce débat. Il faut participer à cette élection. La recomposition du Parlement européen aura une importance considérable, en particulier la redistribution au sein du PPE. Et ça, je suis en accord total avec vous. Est-ce qu'on va arriver à sortir du PPE ? Est-ce qu'ils vont arriver à sortir ceux qui sont... Oui, comment vont se regrouper les anti-européens affichés ? Tout ça est extrêmement intéressant. Ils n'auront peut-être pas la position dominante qu'ils espèrent avoir, puisqu'ils n'auront plus les députés UKIP, ils n'auront plus les députés anti-européens britanniques. Donc, et comment vont s'organiser les choses ?
Mais si, ils ne sont pas là.
C'est essentiel et c'est un enjeu fondamental. Maintenant, sur la question du référendum, mais d'où sort ce référendum ? Il était question d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Il y a de cela un an. Bon, ça peut, à la limite, ça pouvait se justifier. Mais ce débat qui sera tout chaud conclu, si je puis dire, encore tout brûlant de passion, qui se sera terminé le 15 mars, comment peut-on le mouliner en un référendum ? Avec quelles questions ? Sur quel objet ? On sera dans une confusion totale. Si la question doit être, vous qui vous plaignez de vos mauvaises conditions d'existence, quelles économies voulez-vous dans les dépenses publiques ? Ce sera un pur tour de passe-passe. Et au lieu d'une catharsis... Ce sera un échauffement de toutes les passions. Je suis, quant à moi, tout à fait opposée à un référendum.
On l'aura bien
d'ailleurs,
compris.
Je ferai Christine mieux de Ockrent, dispenser ces jugements ignorant tout ce contenu de ce référendum.
Christine Ockrent et Daniel Cohn-Bendit.
Rapidement, je reviens à la question posée par Émilie. Comment faire pour qu'on parle d'Europe jusqu'aux élections européennes et bien que les médias soient les premiers à parler davantage d'Europe, à traiter davantage l'Europe ? Et je suis heureuse que notre bien-aimée directrice, Sandrine Trainer, ait annoncé tout à l'heure qu'à partir de demain matin, il y aura de grandes interviews européennes.
Dans les matins.
Encore une fois, insistons là-dessus, parce que c'est véritablement en France un problème endémique. Les médias refusent de parler d'Europe. Et bah, c'est trop ennuyeux.
Alors, c'est dans le cahier des charges de France Télévisions.
À qui le
dites-vous,
cher ami ?
Dans le cahier des charges, et vous faisiez une fabuleuse émission.
Merci Sylvie, c'est ce que j'espérais entendre.
puisque puisqu'on s'auto-congratule, en effet, vous l'avez dit, mais tout le monde n'était pas à l'Odéon aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas là, en effet, on va le préciser dès lundi dans les matins de Guillaume Erner, lancement d'un dispositif exceptionnel sur France Culture, Europe, le moment de vérité. Et le premier invité, en effet, demain matin, lundi matin, l'écrivain italien Eri De Luca. Le mot de la fin, Daniel Cohn-Bendit, et puis vos conseils de lecture rapidement.
Ah ben moi, je dis, l'Europe sera intéressante si les candidats sont intéressants. Voilà, s'il y a des candidats intéressants, les gens écoutent. Et si les candidats ne parlent que de la France, eh bien, il n'y aura pas de débat sur l'Europe. C'est simple. Alors, les médias, oui, mais il faut que les médias, s'ils invitent quelqu'un, parce qu'il y a encore les gilets jaunes, ou les gilets rouges, ou les gilets roses, ou les je sais pas quoi, eh bien, il faut se dire que il y a, par exemple, ça serait très intéressant de faire un débat sur l'Italie, parce que sur les émigrés, les Italiens en ont gros sur la patate, et ils ont raison. Parce qu'on les a laissés seuls pendant des années et des années, et on paye les pots cassés de ceux qu'on n'a pas fait. Donc voilà, il y a une possibilité intelligente de parler de l'Europe, et par exemple, si on veut parler des gilets jaunes, moi j'ai trouvé extraordinaire que la tête de liste prévue, je sais pas s'ils feront une liste, ait fait une sortie quand même hier, en disant, Madame Levasseur, en disant, mais on a besoin de l'Europe. Inch'Allah. Vous voyez, même chez eux, c'est arrivé.
On dit Alléluia dans ces cas-là.
Moi, je dis Inch'Allah.
On dit Alléluia plutôt, mais bon.
Merci beaucoup à tous les quatre. Vos conseils de lecture avant de nous séparer, Monique Cantos-Pervert.
Alors, un roman islandais qui a été une découverte, qu'une amie m'a conseillé, et vraiment, ça a été un cheminement merveilleux, de Jan Kullmann Stefansson, Asta, qui est plusieurs générations en Islande aujourd'hui. C'est bouleversant. Et j'ajouterai aussi, pour la théorie, le petit livre de Claude Habib sur Petit en taille, mais pas en pensée, sur la tolérance. Combien il est difficile de tolérer, et pourtant c'est absolument une obligation de respect d'autrui.
Brièvement, conseil de lecture, Sylvie Goulard.
Kevin O'Rourke, chez Odile Jacob, l'histoire du Brexit, dans laquelle on a la vision irlandaise et qui insiste sur le fait que l'Europe, c'est la paix, pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre l'Irlande et le Royaume-Uni.
Et Daniel, il sera l'invité d'affaires étrangères consacré au Brexit.
Formidable, Daniel Cohn-Bendit.
Le livre de Jean Quatremer sur l'euro, l'histoire de l'Europe, qui est formidable, et le livre de Reinhardt, je crois que le journal Reinhardt, qui a fait un livre aussi passionnant, Voyage à travers l'Europe ou au bout de l'Europe. Les deux sont passionnants.
Christine Ockrent.
Non, c'est lui, il en a fait
pour
un
replonger,
qui vient de sortir. Pour
Christine Ockrent.
Pour replonger en France, dans nos spécificités françaises, moi je recommande très vivement le livre d'Alain Minc, qui s'appelle « Voyage au centre du système » chez Grasset. C'est peut-être l'ordre politique ancien, j'en suis pas sûre.
Et un Européen, Tommy Unger, qui nous a quittés cette semaine pour les enfants et pour les parents, relire finalement son œuvre intégrale, Les Trois Brigands, Le Géant de Zeralda ou Adélaïde, l'histoire de ce kangourou ailé qui fera du bien à tout le monde en ces temps compliqués. Merci beaucoup à tous les quatre, Monique Cantos-Pervert, Sylvie Goulard, Christine Ockrent, Daniel Cohn-Bendit. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, et aujourd'hui avec nous pour rendre possible ce moment de direct à l'Odéon, Stéphane Boffi, Thibaut Nassien-Bette, Francesca Fossati, Pascal Bramy, Luc Tramier, François Gestin, Marie Penel, Sarah Cornu et Neil Patras. Et merci bien sûr aussi à Marilyn Boulan. À suivre Les Bonnes Choses de Caroline Brouet, Signe des Temps de Marc Weisman. Et puis donc lundi matin, Guillaume Erner, le dispositif européen de France Culture. Merci à vous, chers auditeurs, de nous être fidèles. Merci. Merci d'être venus si nombreux. Et bien entendu, L'Esprit Public revient dimanche prochain, 11h. Passez une bonne semaine à l'écoute de France Culture.